Radio Shalom, le journal vous est présenté par Bernard Abouaf.
Bonsoir à tous. Première réaction officielle israélienne après l'annonce de la vente de 48 avions F-35 à l'Arabie Saoudite par les États-Unis. Et les Israéliens affirment « notre supériorité aérienne sera garantie ». Le plan de paix de Donald Trump pour Gaza est voué à l'échec, affirme pour sa part le chef de la diplomatie israélienne, s'il ne met pas fin à l'UNRWA, l'UNRWA qui encourage le terrorisme, l'UNRWA, affirme le ministre, qui contribue à perpétuer le conflit infiltré par le Hamas. Cette organisation attise les tensions en enseignant notamment la haine aux enfants de la bande de Gaza, affirme encore le chef de la diplomatie israélienne. Tsahal renforce la défense aux frontières face à la menace des drones, qui est devenue, selon les experts, la première menace sécuritaire pour les Israéliens. Les tunnels ont été remplacés par les drones. Selon l'agence Reuters, l'Iran a demandé à l'Arabie Saoudite d'intervenir auprès des États-Unis pour relancer les discussions sur le nucléaire. Un message qui reflète l'inquiétude croissante de Téhéran face à la possibilité de nouvelles frappes israéliennes et à l'aggravation de la crise économique qui jette les jeunes dans les bras de la contestation qui est de plus en plus importante, notamment par le biais des femmes qui refusent de se voiler et des jeunes qui se rencontrent dans des soirées qui sont des soirées musicales et pacifiques, mais totalement interdite par le régime. Accusé de négationnisme, Grok fait marche arrière. Alors Grok, la plupart d'entre nous ne savons pas ce que c'est. Eh bien, c'est l'application d'intelligence artificielle de X, le réseau Twitter, qui avait publié un texte pour parler des chambres à gaz, qui était révisionniste, pour parler de ce qui passait dans les crématoires, et tout simplement parce que vous connaissez le système de l'intelligence artificielle, elle ne réfléchit pas en fait. Elle compile ce qu'elle a retrouvé sur Internet, et une plainte a été déposée par l'Union des étudiants juifs de France. Comment se fait-il que X, par le biais donc de cette application qui s'appelle Grok, puisse diffuser des propos révisionnistes à travers toute la planète? La question du forum des auditeurs de ce soir à 18h30, que pensez-vous de la proposition de loi pour la peine de mort pour les terroristes palestiniens? Vous nous appelez au 01 43 36 04 06. 01 43 36 04 06. Que pensez-vous de la peine de mort proposée pour les terroristes palestiniens? Le forum, c'est à 18h30, c'est tout de suite après le journal. On part pour Jérusalem où l'on retrouve notre correspondant permanent, Dror Even Sapir. Bonsoir Dror.
Bonsoir.
Israël réagit à la vente des F-35 à l'Arabie Saoudite et affirme que son avantage militaire restera garanti. C'est la première réaction officielle israélienne à ce méga contrat militaire qui a été conclu hier au moins au niveau du principe entre Donald Trump et le prince héritier saoudien. Que dit exactement le porte-parole israélien suite à ce qui a été présenté hier? D'ailleurs, vous en faisiez écho dans le journal, comme une très mauvaise nouvelle pour les Israéliens.
Oui, c'est la première réaction gouvernementale officielle hier, et vous en avez fait part. Il y a eu une réaction de la part de l'armée qui faisait part de son inquiétude tout à fait officiellement. Et là, c'est au tour du gouvernement, par la voix de l'une de ses porte-parole, et le ton et se veut en tout cas beaucoup plus rassurant que celui de Tsahal, puisque cette porte-parole du gouvernement affirme que et insiste. Cette entente de longue date entre Washington et Jérusalem sur la nécessité pour les États-Unis de maintenir la supériorité stratégique et militaire d'Israël dans la région. Ça a toujours été le cas, affirme la porte-parole. Et le Premier ministre s'attend à ce que ce soit le cas dans l'avenir. C'est une formulation qui peut être interprétée bien évidemment de bien des manières. Il n'y a pas de certitude sur le maintien par les États-Unis de la supériorité stratégique d'Israël, notamment dans les airs au Moyen-Orient. Mais en tout cas, Israël s'attend à ce que ce soit le cas. C'est un message qui est très clairement adressé aux États-Unis. On sait qu'Israël demande à ce que des compensation lui soit accordée par les États-Unis suite à la vente des avions de chasse perfectionnés furtifs F-35 à l'Arabie Saoudite, notamment en étoffant la flotte de F-35 dont dispose déjà Israël. Israël, bien évidemment, est-il utile de le rappeler, est le seul pays du Moyen-Orient qui, jusqu'à maintenant, disposait de ces avions de chasse, dont on sait à quel point ils sont perfectionnés, furtifs, et qui sont non seulement de redoutables appareils militaires, mais qui également disposent de toute une série d'équipements leur permettant eh bien, de collecter des informations parfois très précises et à de très longues distances. On ne sait pas encore si ces compensations seront effectivement accordées par l'administration américaine à Israël. On peut imaginer que des négociations très, très intenses aient lieu en ce moment même. Ce qui peut rassurer en Israël, c'est que les premières livraisons de F-35 à l'Arabie Saoudite ne sont prévues que dans quelques années. On parle d'une période de 5 à 7 années avant que ces avions de chasse ne soient fournis à l'armée saoudienne. Et on sait également que la future flotte de F-35 saoudienne sera encadrée par des conseillers militaires et par des formateurs américains, ce qui peut être la garantie que des secrets défense concernant un certain nombre d'équipements dont Israël est pour l'instant le seul pays de la région à bénéficier seront assez sérieusement préservé. En tout cas, c'est l'un des points qui fait l'objet de très probables contacts réguliers et intenses entre Jérusalem et Washington, entre l'armée israélienne et l'armée américaine.
Sapir, je rappelle que vous êtes l'un des correspondants permanents de Radio Shalom à Jérusalem et je vous remercie. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Par ailleurs, je vous le disais en titre, le plan de paix de Trump pour Gaza est voué à l'échec s'il ne met pas fin à l'UNRWA, affirme le chef de la diplomatie israélienne. L'UNRWA encourage le terrorisme, l'UNRWA contribue à perpétuer le conflit. Infiltré par le Hamas, il attise les tensions, enseigne la haine dans ses programmes scolaires, affirme encore le chef de la diplomatie israélienne. À Gaza City, les recherches des corps des otages ont repris dans le quartier de Zetoun, suite à des informations relayées par les médias arabes selon lesquelles le Hamas, avec l'aide de la Croix-Rouge, aurait repris ses efforts pour rechercher les corps. Les Israéliens ont fait savoir que ces recherches avaient lieu dans le quartier de Zetoun. Tzahal renforce la défense aux frontières face à la menace de drones. L'objectif principal est de renforcer la coopération entre les différentes forces et de lancer un processus de développement face à cette menace qui, semble-t-il, à la frontière, à remplacer les tunnels qui ont été détruits. Le trafic d'armes se poursuit, plus sous terre, mais dans les airs. Tzahal met en garde les Palestiniens de Judée-Samarie contre des tentatives de franchir la barrière de sécurité. Le porte-parole de Tzahal en arabe, Avishai Adré, a adressé un message aux Palestiniens leur demandant de cesser les infiltrations illégales, sinon les soldats ont l'ordre d'ouvrir le feu. Et alors, il précise aussi que les sanctions seront graduelles par rapport à la menace. Cela peut aller d'une simple amende à une peine de prison. Le chef spirituel du parti orthodoxe Dégel HaTorah donne son feu vert pour la loi sur la conscription. C'est un véritable tournant dans le monde orthodoxe, puisque ce rabbin est un leader, David Lowe, et il accepte finalement de discuter avec les autorités israéliennes pour le service obligatoire des jeunes orthodoxes, des jeunes les plus religieux en Israël. Ça n'avait jamais été fait par avant. Et il précise cependant une clause cruciale qui accompagne cette décision. Avant le vote final à la Knesset, le projet de loi devra être soumis aux grands rabbins d'Israël qui trancheront définitivement sur la position à adopter. Cette condition présente un risque pour Benjamin Netanyahu car jusqu'à présent, celui-ci bloquait l'avancement du texte en commission pour éviter d'avoir affronté un vote. Selon l'agence Reuters, l'Iran a demandé à l'Arabie Saoudite d'intervenir auprès des États-Unis pour relancer les discussions sur le nucléaire. Un message qui a été transmis au prince héritier qui s'est rendu, on en a beaucoup parlé, à Washington. La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne veulent relancer la voie diplomatique avec l'Iran concernant son programme nucléaire. Et dans l'attente, Téhéran refuse l'accès de l'Agence internationale de l'énergie atomique au site nucléaire bombardé par les Israéliens s'il n'y a pas d'accord préalable, comme il n'y a pas d'accord. Donc, en fait, ils refusent tout simplement l'entrée de leur site bombardé. Le congrès des maires contre l'antisémitisme se poursuit à Paris et Raphaël Entoven est revenu sur son procès face à LFI, la France Insoumise. La France Insoumise qui, finalement, ne fera pas appel alors que la décision de justice est favorable à Raphaël Entoven et défavorable aux Insoumis, puisque les juges ont décidé que, oui, Raphaël Entoven a le droit de dire que LFI est un parti passionnément antisémite. La réaction de Raphaël Entoven.
Cela dit, ce qui est intéressant dans l'histoire du procès qui m'a été fait, c'est que j'ai été relaxé pour avoir dit qu'il l'était. Donc voilà des gens qui nous disent qu'ils ne le sont pas puisqu'ils ne sont pas condamnés pour ça. Eh bien, désormais, moi, j'ai été relaxé pour avoir dit qu'il l'était, pour avoir dit qu'il l'était passionnément. Et donc, c'est désormais une liberté dont chacun peut se saisir et s'emparer. Le fait que la France insoumise soit passionnément antisémite, ce qui est une certitude, à mon sens en tout cas, relève du régime de l'opinion et doit faire partie du débat. Je ne suis pas surpris, après l'audience qu'ils ont subie, qu'ils ne fassent pas appel, je dois vous dire. Parce que j'ai vraiment... La performance de Richard Malka ce jour-là était extraordinaire. Et on les avait pris en sandwich, si vous voulez, entre deux discours. Moi, je plaidais le fait de l'antisémitisme d'atmosphère, ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, c'est-à-dire la possibilité d'être 1000 fois antisémite à l'abri de la loi. Richard Malka, lui, expliquait que l'antisémitisme opportuniste de la France insoumise était devenu un antisémitisme viscéral. Parce que l'antisémitisme n'est pas un choix qu'on peut faire comme ça, comme si de rien n'était, si vous voulez, ou sur lequel on peut revenir. Non, c'est une route sans retour pour celui qui l'emprunte. Et donc toute la plaidoirie de Malka portait là-dessus. À partir de là, ils avaient peu d'arguments. Ce qui m'amuse, si vous voulez, c'est qu'ils aient protesté, tempêté, vitupéré, mais qu'ils aient renoncé à faire appel.
Et puis Raphaël Entoven qui a cette formule étonnante. Il dit « on ne peut pas vaincre l'antisémitisme, mais on doit le combattre ».
La haine des Juifs est vieille comme l'humanité entière et ne disparaîtra pas de sitôt. Donc un combat conséquent contre l'antisémitisme est un combat qui commence par admettre qu'il ne peut pas être définitivement vaincu. D'autant qu'il ressuscite sous des formes nouvelles, sous des formes différentes. Une grande partie de l'antisémitisme aujourd'hui, par exemple, s'ignore lui-même et se vit même comme un bon sentiment. Donc l'antisémitisme n'est pas vincible. Cela ne nous empêche pas de le combattre et de le combattre sur le terrain de l'opinion. Là où il faut le débusquer, c'est-à-dire qu'on va le chercher sur le terrain de l'opinion parce que nous ne sommes que très imparfaitement protégés contre l'antisémitisme par la loi. La loi punit les imbéciles qui disent « mort aux Juifs », si vous voulez. Mais la loi ne peut pas punir des tas de gens qui emploient des mille façons bien plus subtiles de dire leur haine. Ces mille façons plus subtiles de dire leur haine, les jeux sur les mots, les jeux sur les images, les préjugés, les lieux communs, etc. Tout cela doit être combattu sur le terrain de l'opinion, par le débat, et non par l'invective bien sûr, mais par le débat et par le débuscage.
Propos recueillis par Raphaël Usan au congrès des maires contre l'antisémitisme. Raphaël qui nous a rejoint dans les studios. Bonsoir Raphaël.
Bonsoir Bernard.
Et alors, dans ce même congrès, donc le congrès des maires contre l'antisémitisme, le plus haut gradé français s'est exprimé, c'est le général Fabien Mandon. Et il fait ce soir la une de tous les journaux, radio, télé et demain matin presse écrite, car il a dit « la France doit accepter de perdre ses enfants ».
Et oui, un des propos, Fabien Mandon, hein, 56 ans, récemment nommé chef d'état-major des armées françaises, a suscité donc la controverse après un discours aux propos jugés alarmistes face à la menace russe. Avant sa nomination, il a occupé donc plusieurs postes de haut niveau, notamment celui de chef d'état-major particulier du président, une mission qui l'a amené à se rapprocher d'Emmanuel Macron. Au vu du conflit en Ukraine, il est donc devenu l'un des plus proches conseillers du président.
Le ministre des Armées, Catherine Vautrin, a pris la défense du général.
Eh oui, je cite, hein, « ces propos sortis de leur contexte à des fins politiciennes relèvent du langage militaire d'un chef qui chaque jour sait que de jeunes soldats risquent leur vie pour la nation », a donc affirmé sur X la ministre, dénonçant donc les réactions de plusieurs responsables politiques d'opposition qui reprochent au haut gradé un discours « va-t'en en guerre ».
va en guerre. Des propos dénoncés par une partie de la gauche et même par le Rassemblement national.
Et oui, hein, parmi les réactions politiques, Jean-Luc Mélenchon a condamné ces propos. Ce n'est pas à lui d'inviter donc, les maires ni qui que ce soit à des préparations guerrières décidées par personne. Le leader de la France insoumise a également reproché au chef d'état-major des armées de prévoir des sacrifices qui seraient la conséquence de nos échecs diplomatiques. C'est non. 51 000 monuments aux morts dans nos communes, ce n'est pas assez. Oui à la défense nationale, mais non au discours va-t'en en guerre insupportable, a donc écrit le patron du Parti communiste Fabien Roussel. Et puis au Rassemblement national, son vice-président Sébastien Chenu lui a estimé que le général n'avait pas la légitimité pour tenir ses propos et a donc dénoncé une faute de sa part.
Alors Raphaël, je vais vous faire part d'une réflexion lorsque j'ai vu les propos du chef d'état-major et surtout que j'ai eu les réactions très négatives qui sont venues après. J'ai pensé à Israël d'avant le 7 octobre. Parce que quand un chef des armées dit « on doit être prêt à perdre ses enfants », et que toute la société dit « mais non », ce qui d'ailleurs est une réaction tellement humaine et tellement logique, « non, on n'est pas prêt à perdre nos enfants », c'est la société israélienne avant le 7 octobre. Pensez-y, Vous verrez. Youssef Murciano est en ligne avec nous à présent. Bonsoir Youssef.
Bonsoir.
Vous êtes le président de l'Union des étudiants juifs de France, l'UEJF, qui porte plainte contre le réseau X et son IA Grok. Alors là, il y a plein de mots qu'il faudra nous expliciter. Question de génération, Youssef, vous allez faire ce petit jeu de remise en ordre tout de suite. Donc vous portez plainte. Déjà, Grok, IA Grok, ça veut dire quoi ?
L'intelligence artificielle de Twitter, qui, il y a quelques mois, selon le patron de X, le nouveau nom de Twitter, Elon Musk, est débridé, hein, dans le sens où il n'a plus aucune limite, selon son patron même, et qui aujourd'hui, donc, c'est une intelligence artificielle que les utilisateurs du réseau social peuvent utiliser pour poser des questions et avoir des réponses factuelles, des réponses qui sont puisées dans l'intelligence artificielle de Grok, dans Internet, mais également dans les tweets des autres utilisateurs. Et donc, c'est une réponse presque scientifique, numérique, qui est donnée par l'intelligence artificielle. Cette réponse, il y a quelques heures, a décidé de basculer dans le négationnisme et de dire que le Zyklon B et les chambres à gaz, les douches au Zyklon B, avaient pour objectif un objectif sanitaire de lutter contre le typhus et non pas un objectif homicide, un objectif de tuer massivement tous les juifs qui n'étaient pas aptes au travail dans les camps de concentration et dans les camps d'extermination. Un propos négationniste qui est proposé par une intelligence artificielle sous couvert d'intelligence factuelle, sous couvert d'une sorte de probité numérique, et c'est là où est forcément le truc bien tordu qui nous bascule. En fait, on comprend que Grok et X sont dans une forme de blanchiment du négationnisme, essayent de nous faire passer des idées négationnistes, version 2.0, mais avec un semblant de probité numérique.
Alors là, ça pose des problèmes qui effectivement sont essentiels pour notre société aujourd'hui. La première, c'est que, donc on a bien compris, on pose la question sur Grok, et on dit c'est quoi le Zyklon B ? Il dit le Zyklon B, c'est tout simplement parce qu'il fallait désinfecter les camps de concentration. Ça n'a pas du tout été utilisé pour assassiner des juifs. C'est du révisionnisme pur et simple.
Du révisionnisme pur et simple, qui est surtout adossé à une stratégie politique. Parce qu'il faut comprendre que Grok, X, Elon Musk, tout cet univers-là, en fait, c'est un univers qui est purement américain et qui défend une vision du monde qui est la vision du monde américaine avec le freedom of speech, la liberté d'expression à l'américaine, avec la possibilité de tout dire et donc de pouvoir tenir une position historique contraire aux faits, une position historique fausse. Et donc, c'est quand Grok donne cette réponse aux utilisateurs de X, quand Grok fait du révisionnisme, il adosse sa réponse aussi à une stratégie politique. Il dit clairement que des lois en France, dans certains pays, mais en France particulièrement, parce qu'il s'adresse en français, empêchent les utilisateurs de Twitter, les utilisateurs, les citoyens français, de promouvoir cette vision négationniste de l'histoire. Et en fait, il attaque en disant c'est contraire à la liberté d'expression, c'est des lois qui sont là pour museler la population. Et donc, il est vraiment en train d'attaquer notre liberté d'expression. C'est pour ça que l'UEJF décide de porter plainte à la fois pour contestation de crimes contre l'humanité, mais surtout, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, c'est extrêmement pernicieux, parce que c'est une forme d'ingérence. En fait, on est en train de venir dans notre pays et de nous expliquer comment nos lois doivent fonctionner, et en faisant voilà, une sorte de coup d'éclat, de coup d'éclat médiatique sur les réseaux sociaux, avec un propos extrêmement grave, extrêmement faux, et évidemment négationniste et révisionniste.
Lorsque Elon Musk a pris le réseau social qui s'appelait Twitter à l'époque, et qu'il a transformé le nom, il a appelé X, il a dit je vais rendre la liberté d'expression à chacun, on a le droit de dire les pires horreurs. Et d'ailleurs, pour bien lancer le débat, il faisait à l'époque lui-même tous les jours une publication par jour dans laquelle il disait des horreurs pour dire « Oui, on a le droit de tout dire. Après, même si on se trompe, on peut être contesté. » Donc c'est ça que vous êtes en train de nous expliquer en ce moment. C'est que donc ça, comme Internet n'a pas de frontières, il importe ça en France. Et donc quelqu'un fait une recherche sur X, qui s'appelle Twitter, je le rappelle, pour les plus anciens, qui s'appelait Twitter. Et les gens croient que c'est vrai, alors que c'est
exactement,
en fait...
Parce que... On est en train, on a grandi dans un monde, le passage du XXe siècle au XXIe siècle, avec la révolution numérique qu'on a vécu, en fait on est tous nourris avec l'idée que quand on pose une question à un ordinateur, c'est beaucoup plus fiable que si on avait demandé à nos cerveaux la réponse. Par exemple, quand on fait un calcul mental, on sait que si on prend une calculette, on va avoir un calcul beaucoup plus précis. Quand on compte des secondes, on sait que si on regarde une montre digitale, on va avoir un calcul beaucoup plus précis. Et c'est sur ça que Grok surfe en réalité, parce que quand on pose une question à Grok, on s'attend à avoir une réponse qui relève de l'intelligence numérique, de la fiabilité presque scientifique. Et c'est là où est l'arnaque, parce que l'intelligence artificielle ne fonctionne pas comme ça. Et c'est pour ça que l'intelligence artificielle, c'est une révolution. Parce que ce n'est pas une réponse scientifique aux questions que les humains se posent ou que les utilisateurs des réseaux sociaux s'opposent. C'est une réponse qui est basée à la fois sur un algorithme, à la fois sur les réponses qui ont été précédemment fournies par des utilisateurs. Et donc, si la grande majorité des gens tiennent des propos négationnistes, eh ben, l'intelligence artificielle va tenir des propos négationnistes. Et surtout, et ça c'est le plus important, les intelligences artificielles appartiennent à des grands propriétaires, des milliardaires, qui ont des intérêts financiers, des intérêts politiques. Et eux peuvent influer sur les réponses. Ce n'est pas une calculette, ce n'est pas une montre digitale. Et c'est ça qu'il faut entendre. On n'est pas du tout dans un échange entre un humain et une réponse numérique, scientifique, comme on avait l'habitude avant. L'intelligence artificielle, c'est une révolution, et la révolution, c'est que sous couvert de numérique, on nous fait passer les pires horreurs. Et c'est pour ça que il y a quelques mois, j'avais publié une tribune dans Le Point autour de l'intelligence artificielle et de la haine en ligne, parce qu'en fait, c'est en train de révolutionner. Vous savez, pendant des années, on a fait passer des idées racistes et des idées antisémites par des caricatures dans les médias. On sait, par exemple, dans la France juive, il y avait des grandes caricatures de juifs avec des grands nez, par exemple, ou des grandes oreilles qui contrôlaient le monde. Aujourd'hui, il y a des intelligences artificielles qui fabriquent des vidéos qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à la réalité, avec des juifs riches, avec des gros nez et des grandes oreilles. En fait, l'IA permet le fantasme le plus terrible de l'humain de se réaliser sur Internet. Et voilà, et c'est pour ça qu'on a besoin vraiment très urgemment de régler ces questions, de légiférer et de combattre cette vision de la liberté d'expression qui n'est pas la vision européenne, qui n'est pas la vision française et à laquelle on est vraiment très attaché.
Youssef Mursiano, juste une réflexion pour clore notre conversation de ce soir. Donc le problème plus largement, c'est celui de l'intelligence artificielle. Vous nous l'avez très bien expliqué et je vais vous faire part d'une anecdote. On a des jeunes journalistes ici qui d'ailleurs, étudiants, étaient tous à l'UEJF. Alors, vous voyez, donc ça marche bien l'UEJF. Et je vois sur I24, il y a marqué le ministre israélien des Affaires étrangères, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant. Je dis, c'est quand même marrant qu'un grand média comme I24 se trompe à ce point-là. Parce que Yoav Gallant, il n'est plus ministre depuis plus d'un an. Il a été démissionné. Et donc les jeunes journalistes, vous voyez comment les générations remplacent les unes les autres, ils me disent, mais non, mais ça c'est l'intelligence artificielle, le gars n'a pas vérifié, il n'a pas vu. Comme il a mis ça dans l'intelligence artificielle, comme le plus de réponses qui a été obtenu jusqu'à présent, puisque le ministre Yoav Gallant a été ministre plus longtemps, c'est Yoav Gallant, ben dans un grand média, et donc pas sur les réseaux sociaux, hein, dans un média, vous voyez une information totalement fausse. Le ministre israélien de la Défense, il ne s'appelle pas Yoav Gallant.
C'est ça, et c'est comme ça sur plein d'autres sujets où en fait on a l'impression que l'intelligence artificielle va nous donner la vérité, va nous répondre à la vérité, mais en fait c'est pas la vérité, c'est pas comme ça que ça marche. En fait, l'intelligence artificielle, c'est un algorithme qui réfléchit en fonction de la personne qui me pose la question, en fonction de l'utilisateur que j'ai en face de moi, je vais lui donner la réponse qu'il attend. Et donc, en fait, on est clairement dans... en fait, le biais de confirmation dont on parlait tout le temps sur les réseaux sociaux, on est dans des bulles, on est confirmé toujours dans nos idées parce qu'on est entre nous, dans nos cercles d'amis, dans nos cercles de connaissances, dans nos groupes sociaux, etc., etc. L'intelligence artificielle, ça fonctionne exactement comme ça. Si mon chat GPT, pour vous dire la vérité, mon chat GPT, il est complètement pro-israélien. Si je prends le chat GPT, du patron d'Urgence Palestine, je suis persuadé qu'il est purement pro-palestinien. C'est comme ça. Il est entraîné par les questions qu'on lui pose. Il est entraîné à nous connaître et à nous comprendre. Et donc, c'est pour ça qu'il faut toujours vérifier ces informations. Et je suis très content que vos journalistes le font, parce que c'est central. Et on a besoin, actuellement, il va y avoir une guerre ouverte entre des informations qui nous viennent de l'intelligence artificielle et des informations vérifiées. Les médias portent une responsabilité dans cette guerre ouverte. Et j'espère, j'ose espérer, qu'un bon nombre de journalistes tiendront la barque et vérifieront leurs informations et iront chercher des informations fiables, des preuves, faire vérifier leurs sources, etc. J'imagine, on en parle, on n'arrête pas d'en parler, en fait, du traitement médiatique du conflit israélo-palestinien. C'est exactement le même sujet, parce que finalement, dans le traitement médiatique israélo-palestinien, on a une grande majorité des articles qui ont des tendances plutôt pro-palestiniennes. Si on fait confiance à l'intelligence artificielle pour écrire nos futurs articles, et bien finalement, on va tomber dans un biais cognitif qui va nous faire tourner en rond sur toujours les mêmes positions sans jamais réussir à sortir de ces positions.
Youssef Murciano, le président de l'Union des étudiants juifs de France. Merci d'avoir été notre invité. Il s'appelle comment, le ministre israélien de la Défense ? Israël Katz. Merci à vous. Bonsoir, Youssef Murciano. Un moment extraordinaire hier sur scène à Tel Aviv. Une otage libérée qui s'appelle Romy Gonen est montée sur scène. Alors je vais vous raconter exactement comment ça s'est passé. Donc Romy Gonen était otage, et sa famille chantait toujours une chanson de Eden Ben Zaken. C'était, vous savez, comme d'autres, par exemple la famille de Omer Shem Tov chantait tout le temps Abaïta. Eux, cette famille, ils avaient choisi la chanson Egrof de Eden Ben Zaken, qui avait des paroles qui leur permettaient de se raccrocher à l'espoir de voir Romy Gonen être libérée. Un jour, la sœur de Romy Gonen, qui était donc dans un tunnel, la sœur, elle est libre, elle est à Tel Aviv, va voir Eden Ben Zaken et lui dit, est-ce que je peux monter sur scène avec toi, avec une photo de ma sœur? Et comme ça, tout le public pensera à ma sœur et ça participe de la mobilisation pour que le public reste mobilisé pour libérer ma sœur et les autres otages. Et elle monte sur scène, on a les images, Eden Ben Zaken chante la chanson de l'otage. Et hier soir, ben, miracle, c'est l'otage elle-même. C'est Romy qui monte sur scène à côté d'Eden Ben Zaken. Maintenant, elle est libre. Et là, voilà l'otage qui monte sur scène. Et maintenant, on chante Eden Ben Zaken avec l'otage. Et on voit aller avec sa sœur, d'ailleurs, évidemment, qui est revenue. Et l'otage, c'est magnifique. Hein, l'otage. Mariam, est-ce qu'on pourrait retrouver, s'il te plaît, la vraie chanson ? C'est-à-dire, ça, c'est un gros. Quelle belle histoire, Romy Gonen qui va elle-même sur scène pour fêter sa propre libération qui a été souhaitée dans une obscurité totale quelques mois auparavant par le public et par sa sœur.